faire ce qui aurait été de faire un film comme ça, qui s'improvise dans la voiture, faire du cinéma. Et les gestes qu'ils font d'ailleurs anticipent, pour vous qui êtes une jeune génération, ça peut paraître rien, mais le geste de se passer là, ce qu'on fait si facilement aujourd'hui avec les téléphones portables, hein, passer le téléphone à l'un, comme ils font avec la caméra, la passe au moins, ce sont des gestes qu'on ne faisait pas du tout au cinéma, dans l'époque où ça a eu, c'est-à-dire qu'ils finissent par faire des cadrages et des décadrages qui sont habituellement, qui étaient très peu fréquents à l'époque, on avait très peu de mobilité comme ça, c'est pareil de captation filmique comme on l'a aujourd'hui. Et ces gestes qui cadrent et qui décadrent sont des gestes qui s'amusent en fait de quoi? Ils s'amusent, je dirais, de l'égalité des motifs, puisque qu'il s'agisse d'un visage, d'un péage, d'un briquet, d'une veilleuse sur la portière, la caméra y est également sensible, reconnaissant nulle hiérarchie. Et c'est comme ça que l'égalité, ce vieux principe au fondement du politique, trouve ici des images dans une égalité effectivement du traitement, que ce soit des éclats lumineux qui brouillent la pellicule, le visage véritablement d'un homme, ou la lumière des réverbères. Ces motifs, ils sont évidemment très spécifiques au cinéma, puisque vous le savez, surtout au cinéma analogique, est une écriture de la lumière, un dispositif optique et chimique qui retranscrit le visible à partir de la lumière et non pas de la matière, du trait ou de la ligne comme le fait la sculpture, le dessin ou la peinture. Donc les signaux d'une autoroute et les phares de voiture illuminent, comme des météores, si je puis dire, les pensées solitaires et errantes de ces trois passagers dont les voix off se superposent dans la deuxième partie du film, dans une sorte de palimpseste, comme ça, de souvenirs, de sensations et de revendications. Le film, en effet, bascule à la tombée de la nuit, à partir du moment où il a demandé à l'opérateur de couper dans la lumière, et on était entre chien et loup au début du voyage, et on a basculé véritablement dans la nuit, dans la deuxième partie. À la conversation animée du début fait suite l'absorption de chacun des passagers dans un songe méditatif, et bon, qui d'entre nous n'a pas connu, c'est des choses qu'on connaît tous, hein, on part en voiture, on est comme ça, très content, et puis à un moment, la discussion s'éteint, et chacun dans la voiture est absorbé en lui-même et suit évidemment ses pensées, et les suit d'autant plus aisément que la locomotion de la voiture et le défilement du paysage, vous savez, facilite énormément la pensée, c'est toujours, on pense aller au cinéma dans les trains, dans les voitures, quand on ne conduit pas, en tout cas, à chaque fois qu'on se met dans un centre. Et à partir du moment où le film bascule, il bascule aussi du point de vue sonore, d'une prise de vue en son direct, il bascule et devient un effet de mixage. Dans cet effet de mixage, il y a trois pistes de son au moins, en tout cas il y a trois couches différentes de paroles qui vont se superposer, s'entrelacer de manière absolument magique quoi, et magnifique. C'est un travail d'une finesse exceptionnelle, je trouve, tant visuellement que sur le plan du son. Quelles sont ces trois couches? Il y a la pensée silencieuse des passagers, celui qui dit « Ah, si j'avais un enfant, je me enfin bon, les moments où ils suivent leurs propres pensées, celle de la lettre écrite à Paul Sèvres, où il lui parle, je voudrais mon histoire est sans fin, je voudrais te dire ceci, etc. Donc une parole adressée à quelqu'un en particulier. Et enfin la troisième couche, qui est peut-être la plus stupéfiante, c'est celle où il joue avec les micros hein, et où il se lance dans une sorte de mixage qui est très très proche des expériences de poésie sonore. Sur le plan du son, on est vraiment dans la poésie et sur le sonore, sur le genre de la poésie concrète même, et sur le plan visuel, on est très très proche du cinéma expérimental américain, que je pense pas qu'il connaissait à cette époque, mais très 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 proche des effets comme ça d'éblouissement que va multiplier notamment Stan Breakage ou même des films complètement abstraits de Jordan Belson, surtout qui les connaissent, qui sont ici rejoués à travers simplement les réverbères de l'autoroute, qui sont simplement des points lumineux hein, qui défilent comme ça sur l'écran dans une dimension très 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 picturale. Mais ça parle, et donc ça parle beaucoup aussi, et ça parle avec toutes les intonations de la voix, avec des bruits, avec des faux rires, avec des blablabla, avec le simple fait de parler lui-même indépendamment de toute signification. Je pense que c'est très important, hein, l'acte même de parler indépendamment de tout ce qu'il a à dire, mais c'est aussi un film qui parle par moments de la condition ouvrière et des rêveries poétiques de ces personnes qui ne se veulent pas être réduits simplement à des corps souffrants. C'est donc un film qui parle des mains, de l'importance des mains, c'est un des passages les plus beaux peut-être de la voix off, ces mains massacrées par la chaîne, alors que c'est, comme vous le savez, le membre de notre anatomie qui a été fondamental dans notre évolution et qui est aussi le plus capable de tout, de prouesse, de contact, c'est le membre magique du corps humain. Et comme le dit un moment donc Michel Desrois, ce n'est pas un hasard si dans l'humain il y a un. Alors le film, le montage, lui, le montage visuel, la manière que le mixage construit cette espèce avec toujours avec les larcènes, avec les enregistrements préfets. Le montage visuel lui fait clignoter hein, les éclats de lumière qui passent ce voyage sur l'autoroute de nuit. Et il utilise notamment des morceaux d'amorce hein, pour faire des effets de bruissement, des flashs comme ça. Exactement. Et ça fait un film qui est pauvre, très peu de moyens, qui est fait avec trois fois rien et qui est vraiment stupéfiant dans tous les sens du terme. Et qui reconstitue comme ça, sous nos yeux, le sentiment de la vie en faisant crépiter comme ça à l'écran dans une pure diffusion d'énergie lumineuse, colorée et sonore. Mais c'est surtout un film qui est conçu dans l'instant, qui est conçu comme un geste cinématographique sans visée. C'est pas un film qui a un projet, c'est un film qu'ils ont commencé à faire alors que la pellicule est chère, comme ils disent au début, donc avec la crainte de gâcher de la pellicule pour rien. Et c'est un film qui se construit sans visée particulière et qui a dû se terminer sur une étape de montage, comment le comprendre. C'est donc un film dont la forme se trouve en se faisant. C'est pas un film qui a été écrit, projeté, puis réalisé en fonction de son attendu. C'est vraiment inventé dans le geste filmique lui-même. Et c'est donc, et je reviendrai sur cette histoire du présent parce que vous comprendrez quel rôle je lui fais jouer dans le champ politique un peu plus tard. Et c'est enfin un film vagabond. Un film vagabond parce que d'abord c'est un film qui se déplace sans cesse, on est très surpris de... Il aurait pu aller dans plein sens, en fait, ce film, il l'attend certains. Non seulement parce qu'il est tourné intégralement de l'intérieur d'une voiture, ce qui est notamment un déplacement, et c'est un grand poncif hein, du cinéma, vous savez, des films de voiture. L'histoire à faire des films tournés de l'intérieur d'une voiture, c'est pour des raisons évidentes. La voiture et le cinéma partagent d'être deux machines de l'ère industrielle qui ont affaire avec l'image mouvement. Donc, forcément, il y a toujours des parallèles entre les deux, voiture et train. Bref, je passe là-dessus. Mais aussi, c'est un film vagabond parce que ce qui s'y raconte et ce qui s'y voit déplace sans cesse la pensée et la perception. On bascule constamment d'une idée à une autre, d'une perception sur une autre. C'est donc un film qui épouse les lois de la rêverie et de l'association libre. C'est pas un discours organisé. Ça fonctionne beaucoup plus par association. C'est un film vagabond aussi parce qu'il est sans ordre et sans but, qu'il ne se fixe aucun projet et qui semble simplement profiter de l'instant présent. Donc je reviens sur ce thème du présent, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et c'est un film vagabond enfin parce qu'au 19e siècle, c'est ainsi que l'on considérait les ouvriers qui se déplaçaient sans livrer. C'est un vagabond et la police pouvait les arrêter et les punir. Et c'est enfin du coup un film vagabond, c'est le point clé pour moi de la grandeur de ce film qui m'a tellement impressionné et impressionné chaque fois que je le vois. C'est que c'est un film d'évasion en fait. Il s'évade à ce moment-là hors de la condition de militant, d'ouvrier, voué à l'unique cause de la grève. C'est un film dans lequel ils se font la malle, entre guillemets, on suit ce mouvement de libération de l'évasion. Et c'est tout à fait étonnant évidemment, c'est pour ça que j'ai insisté sur le passage du film, je montrais le long extrait du film Emmanuel. C'est très, très intéressant évidemment qu'il le fasse dans l'objet phare, c'est sans mauvais jeu de mots, c'est le cas de le dire, dans l'objet phare de l'industrie, c'est-à-dire la voiture. Hein, c'est-à-dire que à la voiture des U, la voiture terrible qu'on avait vue avec le sang des autres qui bouffe les mains de je ne sais plus cet ouvrier, il y a d'un côté la voiture qu'on construit, la souffrance qu'il y a dedans, et ensuite il la montre ici, c'est un autre film sur la voiture, mais la voiture ici qui est utilisée par eux. Alors c'est normal, c'est fait dans les voitures parce que vous le savez peut-être pas, mais la codification finale, si je puis dire, de la chaîne de montage, elle a lieu justement sur les chaînes de voitures, et notamment au niveau de forme.